Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Marcus Klingberg. Le 19 janvier 2003, à Roissy, un vieil homme descend d'un avion en provenance de Tel Aviv. 20 ans plus tôt, jour pour jour, il avait été arrêté par les services de sécurité intérieure israéliens, puis condamné à la peine d'emprisonnement maximum, 20 ans, pour espionnage au profit de l'URSS. Cet homme s'appelle donc Marcus Klingberg. Mais son histoire ne se résume pas à une affaire d'espionnage, une de plus, pourrait-on dire, selon la rengaine, espion hors du commun, comme s'il en existait de commun. Non. Celle-là commence en Pologne, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans une famille juive de Varsovie, se poursuit en URSS au début de la Seconde, passe par la Suède, arrive en Israël aux premières heures de l'existence de ce jeune État, et se termine à Paris, où Marcus Klingberg meurt en 2015, emportant avec lui de lourds secrets, à la tête desquels la nature exacte des informations qu'il a livrées aux Soviétiques. C'est l'histoire d'un homme paradoxal, militaire décoré, sensible aux honneurs, membre apprécié de la bonne société de Tel Aviv, espion par conviction que nous vous racontons aujourd'hui, un parcours de vie qui donne le tournis et qui, est-ce qualité, n'est pas pour nous déplaire. Notre invité aujourd'hui, Jan Brossa, petit-fils de Marcus Klingberg, auteur du récit « L'espion et l'enfant » publié chez Flammarion en 2016. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Odile Conseil, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
La vie de Marcus Klingberg sombre dans un trou sans fond le 19 janvier 1983. Ce jour-là, ce médecin épidémiologiste doit s'envoler de Tel Aviv vers Singapour pour évaluer la gravité de l'explosion d'une usine de produits chimiques. Quelques années plus tôt, il avait présidé le comité international constitué après l'explosion de l'usine italienne de Seveso. Il est donc l'homme de la situation. Mais il n'y a pas eu d'explosion à Singapour et Marcus Klingberg ne prendra pas l'avion. Non, c'est un piège. Les hommes censés l'accompagner à l'aéroport font partie en vérité du Shin Bet, les services de sécurité intérieure d'Israël. Ils l'emmènent dans un lieu secret. Lui signifie qu'il est en état d'arrestation, soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État. Pendant 4 jours, Klingberg est interrogé sans relâche, gavé de café probablement frelaté, assailli de questions, objet tour à tour d'intimidation et de promesses, de menaces proférées à mots à peine couverts du style « Vous avez une fille et un petit-fils à Paris. Nous connaissons leur adresse. » Jusque-là, Klingberg a nié. Non, il n'a pas transmis d'informations à l'URSS. Non, il n'est pas un espion. Non, il ne voit pas ce qu'on lui reproche. Il n'a rien fait de répréhensible. Non, non et non. Dénégation répétée encore et encore. Mais pour les hommes qui l'interrogent, le temps est un allié. Le temps qu'un juge autorise la prolongation de la détention sans l'assistance d'un avocat. Et ce qui devait arriver arrive, Marcus Klingberg finit par craquer. Dans son autobiographie publiée en France en 2015 aux éditions Nouveau Monde sous le titre « Le dernier espion », il écrit
« En quelques secondes, ma vie a basculé. En quelques secondes et une phrase. D'homme libre, professeur reconnu, scientifique renommé, je suis devenu un détenu, un suspect, un petit homme enfermé dans une petite cellule. » Dépouillé de son nom et de son identité, je n'étais plus qu'un espion.
La vie de Marcus Klingberg, de son vrai nom ou de son nom complet Abraham Mordechai Klingberg, commence 65 ans plus tôt, le 7 octobre 1918 à Varsovie, dans une famille juive orthodoxe ouverte à la culture. Quand son père doit être longuement hospitalisé, le jeune Marek, c'est ainsi que tout le monde l'appelle, passe quelques années dans la famille de son grand-père paternel, rabbin d'une petite ville proche de Cracovie. Il y acquiert le goût des livres et le sens de l'organisation, inculqué par ailleurs par 3 tantes sévères autant qu'aimantes. Adolescent, il rejoint ses parents qui se sont installés à Otvok, à 25 km de la capitale, une ville au climat plus favorable pour la fragile santé de son père. Dans cette ville où, selon les propres mots de Klingberg, nulle part ailleurs dans ce pays résolument antisémite, le Shabbat n'était aussi magnifiquement célébré, la vie du jeune homme, comme celle de tant de juifs, bascule dans l'horreur lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne.
C'est contre la Pologne que Hitler lança le premier assaut de la dernière guerre mondiale. En réalité, ce fut un assassinat. Un assassinat délibéré. La guerre éclair dura 17 jours. Ce n'était que le début d'un long martyre.
Klingberg est alors en quatrième année de médecine. Sur les bancs de l'université, il côtoie tout à la fois les étudiants d'une organisation fasciste qui interdit aux juifs de s'asseoir à certaines places, et d'autres, antifascistes, eux, prêts à faire le coup de poing avec les premiers. Et à mesure qu'il se rapproche des antifas, la pratique religieuse de Klingberg s'estompe. Juif de naissance, peut-être, mais de moins en moins, puis plus jamais pratiquant, et cela jusqu'à la fin de son existence. Mais pour l'instant, il s'agit de survivre. Prévenu du sort qui attend les Juifs par un officier allemand avec qui il a sympathisé, ils étaient voisins de tranchées lors de la Grande Guerre, le père de Marcus veut quitter le pays. Mais la mère refuse, persuadée que les choses finiront par se calmer. Pressé par son père, pour qu'au moins l'un de nous survive, lui dit-il, Marcus fuit vers l'URSS. Il réussit à rejoindre Minsk, capitale de la République soviétique de Biélorussie, apprend le russe, adopte la nationalité soviétique, termine ses études de médecine grâce à une bourse du gouvernement. La remise des diplômes est prévue le 23 juin 1941. Mais la veille, Hitler déclenche l'opération Barbarossa. Les troupes nazies envahissent l'URSS. Le pacte germano-soviétique est rompu.
À 6h du matin, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, fait connaître à la presse allemande et internationale la note adressée par le gouvernement du Reich au gouvernement soviétique. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée.
En 1939, l'étudiant premier à la mort avait fui les nazis, cette fois. Le jeune médecin, fort de sa nouvelle nationalité, part au combat. Il s'engage comme volontaire dans l'armée rouge. C'est au cours de cette guerre, après avoir survécu à la déroute initiale de l'armée soviétique face à la Wehrmacht, qu'il acquiert la spécialisation qui sera la sienne au cours des 40 années suivantes, l'épidémiologie. En décembre 1943, il est nommé responsable de l'unité de lutte contre les épidémies pour la région de Molotov, une ville de l'Oural, rebaptisée Perm, en 1957. Il a 25 ans. Un an plus tard, il est à nouveau promu. Résumé par ses soins, cela donne ceci.
À mon arrivée en Union soviétique, j'étais un réfugié juif polonais qui n'avait pas fini ses études de médecine. À mon départ, en décembre 1944, j'étais épidémiologiste en chef de la Biélorussie et ardent communiste. Les 5 ans passés en Union soviétique ont suscité chez moi une loyauté sans faille que je n'ai jamais ressentie ni avant ni après pour aucun autre pays.
Mais une fois la guerre terminée, le jeune médecin à qui l'URSS tend les bras choisit de retourner en Pologne pour prendre part à l'édification du socialisme dans ce pays dévasté. C'est là qu'il apprend que ses parents et son jeune frère ont été assassinés à Treblinka. C'est à cette époque aussi qu'il rencontre Wanda Jasińska, une microbiologiste rescapée du ghetto de Varsovie, qui deviendra son épouse. C'est une femme belle et fière, à l'allure souveraine, dure comme le diamant. Interrogée elle aussi par le Shin Bet israélien en 83, elle n'a jamais avoué les activités d'espionnage qu'elle menait de concert avec son mari. Par amour pour elle, en tout cas, Klingberg accepte de quitter la Pologne où l'attendent pourtant responsabilité et honneur en tout genre. Mais Wanda voulait à tout prix fuir ce pays qu'elle appelait le Grand Cimetière. Et ce sera la Suède. Le professeur Klingberg et Wanda Jasińska, à la fois son épouse et son assistante, obtiennent des visas pour une mission en principe de quelques semaines à Stockholm en mai 1947. Ils n'ont prévenu que quelques amis sûrs qu'ils quittaient l'URSS. Ils resteront 3 ans en Suède. 3 années idylliques pour Vanda, qui aime ce pays calme et qui trouve rapidement un emploi de microbiologiste. Mais 3 années d'ennui pour lui, interdit d'exercer la médecine faute d'une reconnaissance de ses diplômes. C'est là aussi que naît leur unique enfant, Sylvia. Marcus Klingberg broie donc du noir. Il veut quitter la trop terne Suède pour une terre où il pourrait se battre pour ses convictions, donner un sens à sa vie, exercer ses compétences. Il imagine ainsi partir en Chine, rejoindre les troupes de Mao, ou celles de Ho Chi Minh en Indochine, ou encore de faire route vers l'Éthiopie, alors durement frappée par des épidémies. Mais faute de disposer de contacts appropriés, faute de mieux pourrait-on dire, car Klingberg n'est pas un sioniste convaincu, eh bien ce sera la Palestine. L'État d'Israël, dont la création est adoptée par l'ONU en novembre 1947, se déclare officiellement indépendant quelques mois plus tard, au dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. Rappel des faits, dans le documentaire de 2018, intitulé « Une terre deux fois promise » de William Carell et Blanche Finger, diffusé sur Arte.
Le 14 mai 1948, une foule en liesse déferle dans Tel Aviv, avec des drapeaux ornés de l'étoile de David. À Tel Aviv, puisque Jérusalem est encerclée et inaccessible, Ben Gourion, debout sous le portrait de Théodore Herzl, déclare d'une voix ferme « Nous proclamons la fondation de l'État juif, qui portera le nom d'État d'Israël. Nous tendons la main de l'amitié et de la paix à tous les États qui nous entourent. Il y a suffisamment d'espace dans ce pays pour nous et pour les Arabes. »
Mais les paroles de Ben Gourion restent vœux pieux. La naissance d'Israël sonne en effet le début de la guerre avec les États arabes voisins. Et Klingberg veut en être. Vanda se laisse convaincre, à contre-cœur. « Nous avions quitté la Pologne pour elle, nous avons quitté la Suède pour moi », écrit Marcus. Ainsi, l'ancien capitaine de l'armée rouge recrute-t-il en Suède une 30aine de volontaires prêts à s'enrôler dans la Haganah, l'armée d'Israël qui deviendra rapidement Tsahal. En novembre 1948, les voilà donc partis, mais pas en avion, comme l'avaient promis les membres de l'agence juive avec qui ils avaient affaire, non. Ils échouent à Marseille, où ils sont entassés avec 4500 autres migrants sur le Panwerk, un navire qui traverse la Méditerranée dans des conditions sanitaires épouvantables, avec en tout et pour tout 2 cabinets de toilettes et pas suffisamment d'eau ni de nourriture, première déconvenue. Alors, arrivé à Haïfa, ce n'est guère mieux. Vaporisation répétée de DDT et interminables formalités administratives, hébergement dans une misérable cabane dans un camp d'immigrants, bienvenue au pays. Aucune considération n'est accordée à ces engagés volontaires. Mais Marcus, fort d'un caractère résolu et de talents médicaux certes, trouve vite sa place en Israël, en l'occurrence dans les services de santé de l'armée. Pour Vanda, réticente dès le départ à venir s'installer dans un pays qu'elle qualifiait volontiers de raciste, les choses sont plus compliquées. Quand l'armée alloue au couple un bel appartement qui avait appartenu à une famille palestinienne contrainte à l'exil, Marcus ferme les yeux, mais pas à Vanda. Elle refusait d'ignorer cette vérité qu'elle ne cessait d'évoquer, reconnaît-il.
My life is like
France Inter. Affaires sensibles.
Enfant, puis adolescent en Pologne, capitaine de l'armée rouge en URSS, le docteur Marcus Klingberg entame sans difficulté une nouvelle vie en Israël. En 1952, il fonde l'Institut de recherche en médecine militaire qui a pour vocation d'étudier les maladies contagieuses et leur propagation au sein des armées. Cette même année, il est appelé à contrôler la sécurisation de laboratoires nouvellement construits à Nes Ziona, près de Tel Aviv, en vue d'y installer un institut de recherche biologique. 4 ans plus tard, il est embauché sur ce site, il en devient rapidement le directeur scientifique adjoint. Bien. Mais il se trouve que Nes Ziona n'est pas un centre de recherche ordinaire. Voici ce qu'écrivait à son sujet un journaliste britannique dans le journal The Observer en 2014.
Nes Ziona était l'un des principaux laboratoires de recherche du monde occidental en matière d'armement chimique et biologique. On y travaillait sur des gaz neurotoxiques comme le sarin, le tabin, l'agent innervant VX et d'autres agents incapacitants. Les chercheurs y étudiaient aussi de façon dont les insectes pouvaient transmettre la peste, le typhus et la rage, autant de maladies qui figuraient également dans l'arsenal militaire des États-Unis avant que ceux-ci ne renoncent unilatéralement à la production d'armes de ce type en 1969. Cette interdiction a pris corps dans un traité international, la Convention sur les armes biologiques de 1972, qu'Israël n'a jamais ratifiée.
On imagine que tous ceux qui travaillent dans ce labo placé sous le contrôle direct du Premier ministre israélien et dont les travaux relèvent du secret le plus absolu sont étroitement surveillés. Mais cela n'a pas empêché Marcus Klingberg de transmettre des informations soviétiques sans être le moins du monde suspecté. Plus singulier encore, à Nes Ziona, c'est lui qui avait la responsabilité des procédures de sécurité et il veillait scrupuleusement à leur application. Sa carrière d'espion commence ainsi de façon anodine en 1950. Par l'intermédiaire d'amis à qui il a longuement raconté son histoire, il rencontre un certain Victor, un Russe avec qui il a plaisir à échanger et pratiquer sa langue. L'homme est charmant, s'intéresse à la vie de Klingberg, lui fait raconter en détail sa jeunesse en Pologne, ses années de guerre dans l'armée rouge, son arrivée en Israël. Il prend toujours des nouvelles de Vanda et de Sylvia. Bref, Marcus Klingberg apprécie tous ces moments en sa compagnie. Les deux se voient d'abord lors de promenades en voiture, puis, peu à peu, de façon plus discrète. Le passé de Klingberg étant un sujet épuisé, les conversations portent désormais sur les recherches menées par le scientifique et ses équipes. Dans un premier temps, il ne s'agit pas de dossiers confidentiels. Mais Klingberg n'est pas dupe. C'est du moins ce qu'il écrira ultérieurement dans son autobiographie.
Nous étions amis, mais je savais que j'étais une source d'informations. Victor orchestrait l'évolution de nos relations en virtuose. Par son éducation, sa rigueur idéologique et sa chaleur amicale, il était la personnification du monde que j'avais laissé derrière moi. Il incarnait ce qui avait donné sens à ma vie au cours des 2 décennies précédentes, un sens que je cherchais en vain dans mon nouveau pays, dans cet État dont l'ambition était de mettre au monde un nouveau juif belliqueux, capable de se substituer aux juifs de la diaspora.
Au fil des mois et de l'accroissement de ses responsabilités, Marcus Klingberg, aidé désormais de Vanda, qui a été mis au courant, livre des informations à Victor. Celui-ci est en réalité le premier secrétaire dans l'ambassade soviétique à Tel Aviv et il est l'homme du KGB sur place. À plusieurs reprises, dans le récit qu'il fait de ses années, Marcus Klingberg souligne qu'il n'a aucunement le sentiment de trahir. Cela peut sembler parfaitement normal, d'ailleurs, si l'on se souvient que l'URSS a été un allié précieux d'Israël lors de ses premières années d'existence. Moscou, oui, a soutenu sans réserve la création d'un État pour les Juifs à la tribune de l'ONU en novembre 1947. Elle a été le premier pays à reconnaître officiellement Israël le 17 mai 1948. Et bien plus encore, rappelle l'historien et journaliste Dominique Vidal dans le livre « Israël, naissance d'un État » paru tout récemment chez l'Harmattan.
À partir de la fin mars 1948, Staline fait livrer à la Haganah de grandes quantités d'armements, y compris des chars et des avions. Ben Gourion le reconnaîtra 20 ans plus tard. Les armes tchèques ont sauvé le pays. Elles constituèrent l'aide la plus importante que nous ayons obtenue. Je doute fort que sans elles, nous aurions pu survivre aux premiers mois de guerre.
Marcus Klingberg, lui, poursuit sa brillante carrière, accumule les honneurs et les invitations à l'étranger. Il s'offre aussi une année sabbatique d'un an à Philadelphie, bref, la belle vie. En 1959, Victor, le soviétique, ayant été rappelé à Moscou, il est flanqué d'un nouvel officier traitant. Alors, il poursuit ses rendez-vous, toujours à la demande de son interlocuteur, toujours de façon désintéressée. Oui, mais il a fermement, et à plusieurs reprises, refusé la moindre rémunération pour ses informations. Mais en 1967, après la guerre des six jours, l'URSS rompt ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. L'agent du KGB fait ses adieux au médecin qui finalement se sent quitte vis-à-vis de l'URSS. Mais Moscou ne l'entend pas de cette oreille. Au début des années 70, le centre, comme on l'appelle, reprend contact avec lui. Les rendez-vous auront désormais lieu à Genève, où Marcus se rend fréquemment pour des conférences ou des enseignements. Mais il est de plus en plus inquiet. Il se sent parfois suivi. Son épouse aussi. Leur téléphone a l'air d'être mis sur écoute. Il estime en outre n'avoir plus rien à offrir. Et met donc fin à ses relations avec l'URSS en 1976. Comme soulagé. Enfin, si l'on peut dire. Car entre-temps, il y a eu des alertes. En 1965, il est interrogé pendant plusieurs heures par le Shin Bet, soupçonné d'espionnage au profit de la Pologne. Où il n'a pas de mal à protester de son innocence, ni à passer au détecteur de mensonges, pour la bonne et simple raison qu'il n'a alors rien à voir avec la Pologne. Quelques jours plus tard, l'épisode lui vaut quand même une crise cardiaque. Et là, Klingberg réalise qu'entre les premiers échanges de 1950 et ceux du milieu des années 60, la situation a considérablement changé. Et il le reconnaît.
Pour la première fois, je voyais mes relations avec l'ambassade soviétique sous leur angle pénal. Ce qui n'était qu'une série de rencontres presque innocentes entre un jeune lieutenant-colonel sans importance et un amical diplomate étranger s'était transformé en une relation d'espionnage clandestine entre le directeur scientifique adjoint de l'institut semi-confidentiel de Nestiona et son officier traitant soviétique.
En 1975, bis repetita. Le Shin Bet le cuisine longuement. Quels ont été ses voyages à l'étranger au cours des dernières années? Pour y faire quoi? À l'invitation de qui? Et pour y rencontrer qui? Pourtant, l'affaire en reste là cette fois encore. Mais l'inquiétude gagne, et la santé de Klingberg commence à se détériorer depuis une maladie artérielle décédée en 1977. Décelée en 1977, à tel point que Vanda et lui décident de laisser tout cela derrière eux. Ils prévoient de quitter Israël le 1er février 1983 pour Paris, où vivent leur fille Sylvia et son fils Yann, né en 1980. Mais quelques jours avant cette date qui doit les faire changer de vie, Klingberg est arrêté. Et pour le coup, il va changer de vie, mais pas comme il espérait. Pendant les 10 années qui vont suivre, il disparaîtra de tous les radars, purement et simplement. En fait, Marcus Klingberg est arrêté. Jugé à huis clos, condamné pour espionnage à 20 ans de prison, la peine maximale. Pire encore, le plus grand espion soviétique en Israël, comme la presse l'a appelé, est emprisonné sous une autre identité. Pour tous les pensionnaires d'Ashkelon, qui hébergent tous les prisonniers dits de « sécurité », essentiellement palestiniens, mais aussi pour les gardiens, pour le personnel de l'infirmerie, que le condamné fréquente souvent, et même pour le directeur, il est Abraham Greenberg, éditeur d'ouvrages de sciences humaines. Pour ses collègues de Nestiona, pour ses amis, pour tous, Marcus Klingberg s'est purement et simplement volatilisé. Toutes ses archives personnelles et professionnelles sont impitoyablement brûlées. Et pour que le tableau soit complet, le Shin Bet fait courir le bruit qu'il est soigné dans une clinique étrangère pour des raisons psychiatriques. Seuls ses très proches sont au courant. Vanda, bien sûr. Sylvia, bien sûr. Un ou deux amis. Peut-être 5 personnes en tout. Qui sont priés de se taire sous peine de voir leur droit de visite supprimé. Aux vacances scolaires, Sylvia et son fils Yann viennent voir le prisonnier. La première fois, le jeune garçon a 3 ans. On lui a dit que son grand-père était à l'hôpital. Il le relate ainsi dans L'enfant et l'espion, paru en 2016 chez Flammarion.
Quand nous arrivions enfin à l'hôpital, nous devions faire la queue. Il y avait des soldats et des chiens pour garder cet endroit. Et une tour avec un haut-parleur dans lequel un homme criait fort. Après, On accédait à un long couloir où l'on entendait plein de gens crier dans des langues étrangères au milieu des bruits de clés, de grilles qui claquent. Et puis une porte s'ouvrait et Saba était là.
Saba, alias grand-père, va passer 16 ans à Ashkelon jusqu'à ses 80 ans. Il survit à 3 tentatives de suicide, à une santé de plus en plus défaillante, à des soins inadaptés procurés en prison par des personnes à qui il n'a pas le droit de dire que lui est médecin et que les traitements qu'il prescrive font pire que mieux. En France, Sylvia prend contact avec l'avocat Antoine Comte. Cela voit cette dernière de se voir interdire l'entrée en Israël et les visites à son père pendant plusieurs années. L'avocat frappe à la porte de l'ambassade de l'URSS à Paris avec un discours simple. Il vous a aidé pendant des années. À votre tour maintenant. Son confrère est-allemand Wolfgang Vogel, spécialiste des échanges de prisonniers Est-Ouest, est de la partie. Les discussions commencent. Antoine Comte le racontait récemment dans l'émission À Voix Nue sur France Culture.
Ça donne lieu à ce que j'appelle un marchandage mondial, mais hallucinant, qui se passe dans mon bureau. Et je suis avec Sylvia, qui fait la traduction, puisqu'elle parlait allemand. Vogel ne parlait qu'allemand. Ensuite, il y a l'avocat israélien qui, lui, parlait anglais aussi, quand même. Et là, c'est une discussion à deux. Nous, on regarde les mouches voler, si j'ose dire. Mais c'est pas des mouches, hein, c'est des espions. Alors, l'israélien dit, nous, on veut le pilote d'avion qui s'appelle Ron Arad et qui a été descendu par les Syriens dans la guerre israélo-palestinienne libanaise de 80 et quelques. Israélien dit, moi je veux aussi aux États-Unis Pollard qui faisait de l'espionnage pour Israël et qui a été condamné à 30 ans de prison. Il est sorti d'ailleurs l'année dernière. Donc et nous disions, enfin plutôt Vogel disait, ben nous on veut Klingberg.
L'affaire est sur le point d'aboutir. L'avocat Vogel vient en personne à Ashkelon informer Klingberg qu'il peut faire sa valise. Mais l'armée israélienne fait in extremis capoter l'échange puisque l'URSS s'effondre. Donc, plus d'espoir de ce côté. C'est la santé très dégradée de Marcus Klingberg, assortie d'une tonitruante campagne médiatique en Israël comme en France, qui finalement permet sa libération, mais des années plus tard. Entre-temps, l'État hébreu a fini par lever le secret sur celui qu'on a appelé le masque de fer israélien suite aux révélations, ou du moins aux questions de quelques journaux étrangers. En 1993, il redevient Klingberg, mais les portes de la prison restent obstinément fermées. En France, un an plus tard, un appel rédigé par l'écrivain Gilles Perrault, signé par une ribambelle de personnalités, demande un geste humanitaire et rappelle que les faits ont été commis dans un contexte politique qui semble appartenir aujourd'hui à un passé révolu. En Israël, des parlementaires de tous bords font la même demande. D'éminents médecins leur emboîtent le pas, mais les démarches pour aboutir à une libération anticipée sont rejetées les unes après les autres. Yann Brossat en donne une explication dans L'Enfant et l'Espion.
Pour le Shin Bet, c'était une question d'honneur. Marcus Klingberg était à la fois leur plus belle prise de guerre et leur plus grave échec puisqu'ils avaient mis presque 30 ans à l'attraper. Ils voulaient donc qu'il paie jusqu'au bout. Par principe. Par cette brutalité stupide que ma grand-mère haïssait. Par inhumanité.
Il faudra attendre l'année 1998 et une énième demande de libération pour que celui qui est devenu le plus vieux prisonnier d'Israël puisse retrouver son chez-lui. Mais ce n'est pas vraiment une libération. Pendant 5 ans encore, dans son appartement de Tel Aviv, équipé à ses frais, de barreaux aux fenêtres et de caméras un peu partout, il vit sous étroite surveillance, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Shin Bet et le Malmab, le service de contre-espionnage de l'armée, s'acharnent à punir ce vieil homme qu'il persiste à présenter comme un danger possible pour la sécurité du pays. Avec un argument pour le moins original, Klingberg n'a pas l'intention de nuire à la sécurité d'Israël, mais il y a des choses qu'il ignore savoir. Si on le met en liberté, il pourrait les divulguer involontairement. Commentaire de l'intéressé ? Irréfutable, assurément. Comment pouvais-je prouver que je ne savais pas ce que, d'après eux, je ne savais pas que je savais ? Enfin, en 2003, libre, il rejoint en France sa fille et son petit-fils. Mais pas Vanda, morte 13 ans plus tôt d'une crise cardiaque à Paris. C'est aussi à Paris, Rue Claude Bernard, que Marcus Klingberg s'est éteint le 30 novembre 2015, à l'âge de 97 ans, après avoir, selon les mots de son petit-fils, résisté à la famine, à la barbarie nazie, à la guerre, au chagrin d'après-guerre, aux virus, aux bactéries manipulées pendant des années, aux interrogatoires musclés, aux menaces et aux intimidations, à son veuvage, aux humiliations carcérales, n'en jetait plus. Mais au-delà de ce parcours romanesque, la vie de Marcus Klingberg laisse plusieurs questions en suspens. Pourquoi cet homme, qui était si sensible aux honneurs, qui exigeait toujours une majuscule à son titre de directeur, qui était entouré d'amis, respecté par ses pairs, invité à donner des conférences et à enseigner à l'étranger, pourquoi a-t-il livré des informations à un pays vu par Israël comme un ennemi après 1967 et la guerre des Six Jours, en l'occurrence l'URSS? Le philosophe Alain Brossa, qui fut un temps l'époux de Sylvia Klingberg, avance une réponse dans l'ouvrage « Agent de Moscou » publié chez Gallimard en 1988.
Sa manière d'être injuste fut de refuser l'ingratitude. Ayant changé de monde, étant parvenu à un port sûr en Occident, il s'est refusé à oublier sa dette, à se tourner en déçu du socialisme réel. Sa fidélité n'allait nullement au communisme en général, mais plus simplement à la communauté, à la terre qu'il avait recueillie, sauvée et faite homme, l'URSS en guerre. Il fut simplement un homme doté de mémoire et qui ne voulait pas oublier.
De son côté, l'intéressé affirme n'avoir jamais eu le sentiment d'agir contre Israël, mais bel et bien pour un équilibre mondial. Voici comment il l'explique dans le film « Un pur espion » de Rémi Lenné, produit par Little Big, dont la diffusion est prévue cet automne. C'est la voix de Marcus Klingberg que vous allez entendre, enregistrée par son avocat Michael Spahr.
Pour moi, un scientifique devrait faire fi des frontières. Je trouvais qu'Israël faisait mauvaise route et se devait de rester neutre. Si j'avais connaissance de secrets importants pour la sécurité du monde, alors il me semblait que les deux blocs devaient en avoir connaissance.
L'autre grande question tient à la teneur exacte des informations livrées par Klingberg concernant les armes chimiques et biologiques mises au point à Nesyona. Nous ne le savons pas et nous ne le saurons probablement jamais. Une fois libéré, une fois revenu en France, le vieil homme n'a pas rompu sa promesse de silence. Sa liberté était à ce prix. La vie de ses proches aussi, sans doute. Voici ses propos qui ouvrent et qui ferment le film de Rémi Lenné intitulé « Un pur espion » produit par Little Big Story.
Sur ma tombe, je veux qu'on écrive ni professeur, ni docteur, mais seulement Marcus, dit Marek, Klingberg, combattant antifasciste. On pourrait aussi ajouter protecteur des secrets du KGB.
Vous écoutez Affaires Sensibles qui vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marcus Klingberg et nous allons en parler avec notre invité Yann Brossa. Bonjour.
Bonjour.
Alors la différence entre vous et moi et entre vous et tous les autres qui nous écoutent, c'est que vous connaissez Marcus Klingberg mieux que personne puisque vous êtes son petit-fils et vous avez raconté votre vie d'enfant notamment dans ce livre « L'espion et l'enfant ». Alors puisque vous l'avez côtoyé beaucoup d'ailleurs quand il était à Paris entre 2003 et 2015, on connaît son histoire, on vient de la raconter, on ne connaît pas l'homme. Quel genre d'homme était-il, son caractère, ses habitudes, vraiment l'homme?
Mon grand-père était au fond assez différent de l'image qu'on peut se faire d'un espion. Mon grand-père était quelqu'un de très chaleureux, de pas secret du tout en apparence, d'assez séducteur, d'assez hableur. Il avait finalement les qualités d'un élu local, vous voyez, c'était quelqu'un qui serrait les mains, qui était sympathique, et donc assez éloigné de ce qu'on s'imagine, de ce que peut être un espion. Ouais. Oui, tout à fait. Ma grand-mère avait plus le caractère d'une espionne, mais mon grand-père pas du tout.
Votre grand-père avait apparemment une mémoire extraordinaire. Une fois en France, vous a-t-il raconté mille et un souvenirs de sa vie d'avant, de la Pologne, de la guerre, de son travail, de ses recherches? Ou finalement, est-ce qu'il a tout dit dans son livre? Est-ce qu'il vous en a dit plus, vous?
Non, enfin, mon grand-père me parlait beaucoup de la guerre, parce que je pense que l'épisode qui l'a le plus marqué dans sa vie, c'est la guerre.
L'armée rouge.
C'est l'armée rouge, c'est l'engagement dans l'armée rouge. Le combat antifasciste, c'était le combat de sa vie, et c'est ce qui explique tout le reste. Donc mon grand-père me parlait beaucoup de ça, et il ne m'a jamais parlé, par exemple, des secrets qu'il a livrés aux soviétiques dans le cadre de ses activités d'espionnage.
Même quand vous étiez plus enfant, même quand
on était à Paris. Parce que, me disait-il, c'était un moyen de me protéger. Mon grand-père me disait, si jamais tu sais, tu finiras dans le coffre d'une voiture. Donc mon grand-père était convaincu que nous livrer ces secrets-là, c'était nous mettre en danger. Et c'est ce qui explique qu'il a gardé le secret.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre alors que Marcus avait écrit son autobiographie déjà ?
Parce que j'avais envie de raconter cette histoire de mon propre point de vue. Et j'avais aussi envie de raconter ce que c'est que l'amour qu'on peut éprouver pour un grand-père, y compris un grand-père qui a été condamné à une peine aussi lourde. J'avais envie de raconter cette histoire-là, qui est une histoire qui incontestablement m'a marqué et a sans doute aussi forgé mon engagement.
Un amour pour son grand-père, il y a de l'admiration aussi de votre part?
Oui, il y a de l'admiration dans la capacité à résister à tout. Moi, ce que je trouve incroyable dans l'histoire de mon grand-père, c'est cette capacité à tenir malgré tout, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai connu dans un premier temps mon grand-père uniquement derrière les barreaux. Puisque quand il a été incarcéré, j'avais 3 ans.
Oui, oui.
Et quand il est parti, j'en avais 19, puisqu'il est resté 16 ans en prison à Ashkelon, comme vous l'avez raconté tout à l'heure. Et j'ai toujours été impressionné par cette capacité à résister. À vrai dire, quand mon grand-père a été mis en prison, personne ne pensait qu'il en sortirait libre. Notre avocat à l'époque, ça m'a été raconté par la suite, nous a dit... il en sortira mort.
Michael Sfar,
non. Son avocat du départ.
Et
en réalité, cet avocat-là est mort avant lui. Et donc, mon grand-père avait cette capacité à tenir, et s'il tenait, c'est qu'il était tout le temps en position de combat. Moi, quand je rendais visite à mon grand-père en prison, si, par exemple, le maton lui supprimait une minute de temps de parloir... C'était un scandale dans toute la prison. Donc mon grand-père ne laissait rien passer. Et c'est, je pense, l'une des leçons que j'ai tirées de tout ça. C'est que pour tenir quand on est confronté à cette adversité-là, il faut être dans une posture de combat et ne jamais courber les chines.
Alors la filiation communiste, elle est évidente, hein, vous l'avez dite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous disait du communisme? Comment vous présentait-il la chose à une époque où où évidemment dans le camp occidental on se disait mais comment on peut être communiste, comment on peut adhérer à une idée qui a débouché sur un régime totalitaire. Ça c'est le grand débat des années 70 et 80.
Ouais, pour être franc,
je dis pas que c'est celui d'aujourd'hui, oui, hein, de toute façon il n'y a plus d'URSS, mais ouais. À l'époque.
Mais mon grand-père ne m'a pas inculqué une idéologie et il n'était pas par ailleurs lui-même un grand théoricien du communisme. Mon grand-père a été marqué par la Deuxième Guerre mondiale et incontestablement attaché à un idéal de justice sociale. Ça ne l'empêchait pas par ailleurs, à la fin de sa vie, d'avoir quand même, et heureusement, un regard critique sur ce que l'Union soviétique était devenue.
Ouais. On va en reparler, non pas de l'Union soviétique, mais du parcours de votre grand-père dans 3 minutes, après avoir écouté Louise Attaque, Sortir de l'ordinaire.
Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Les hommes sont pressés, les hommes sont sincères. Certains ont de l'espace, si on a d'autres qui se servent. Certains sont amoureux, d'autres si solitaires. Certains sont vols au vent, d'autres creusent la terre. Il y a les partisans, il y a les réfractaires. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Certains sont délicieux, d'autres de vrais bulldozers. Certains sont silencieux, d'autres de vrais commères. Certains sont avec eux-mêmes, heureux et se tolèrent. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. Oui, je suis né ici, sur la planète Terre. Des élégants comme d'autres font des commentaires. Il y a ceux qui sont entiers, les autres sur les nerfs. Entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire.
Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Yann Brossat, vous avez vu votre grand-père en prison très souvent. Que ressent un enfant quand il voit un proche, un très proche, un grand-père c'est très proche, en prison?
Ça pourrait être de la honte, mais en l'occurrence, jamais. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. De l'humiliation, oui. De l'humiliation, oui, parce que j'étais môme, on se faisait fouiller à l'entrée. C'est humiliant.
Ouais.
des gens qui avaient été des amis de la famille et qui changeaient de trottoir quand ils nous voyaient. Ça, oui, mais je n'en ai jamais ressenti de la honte. Plutôt une volonté de se battre pour qu'il soit libre. Le combat de ma vie quand j'étais gosse, jusqu'à mes 19 ans, c'était d'obtenir, de voir un jour mon grand-père libre.
Ouais.
Et on a fini par y arriver.
Enfin, une liberté qui était quand même pas complètement... Enfin, qui n'était pas totale.
Non, parce qu'effectivement, pendant plusieurs années, pendant plus de 4 ans... Il était à la maison, mais enfin, il était incarcéré à la maison, puisqu'il y avait un gardien qui était chargé de le surveiller. Bon, ce qui d'ailleurs nous rendait complètement dingue, parce que avoir quelqu'un chez soi qui est là pour vous surveiller, c'est quand même assez particulier. Mais
c'est quelqu'un qui était autour de la maison ou
dans l'appartement. Et qui d'ailleurs, quand par exemple mon grand-père discutait avec des amis et parlait dans une langue étrangère, lui disait de changer de langue pour qu'il puisse comprendre et prendre des notes. Donc non, c'était assez particulier.
Alors ce secret dans lequel vous avez vécu, alors que vous auriez pu briller aux yeux de vos camarades de classe, hein, avoir un grand-père espion, c'est quand même assez romanesque, ça a pesé sur vos jeunes années et dans vos rapports sociaux avec les gens de votre âge ou pas?
Je pense pas, parce que j'avais deux vies parallèles. J'avais ma vie en France... ma scolarité, mes amis d'école, et j'avais les vacances scolaires au cours desquelles je rendais visite à mon grand-père. Mais c'était deux vies qui ne se mélangeaient pas, et de toute façon, j'étais tenu au secret. Enfin, pendant plusieurs années, j'étais tenu au secret, et si jamais je dévoilais l'histoire, le risque, c'était d'être privé de visite. Et d'ailleurs, j'avais un exemple sous mes yeux, puisque ma mère a été privée de visite pendant plusieurs années, elle en avait parlé à un avocat français, et d'ailleurs, pendant cette période-là, je rendais visite à mon grand-père sans ma mère. Donc, de toute façon, il fallait pas en parler.
Votre mère, Sylvia Klingsberg-Brossa, disparue en octobre 2019, c'est elle qui a traduit, je rappelle, en français l'autobiographie de Marcus Klingberg, parue à l'origine en hébreu. Elle avait eu de relations tendues avec son père quand jeune femme. Elle militait dans un mouvement d'extrême-gauche antisioniste, appelé Matzpen. Elle condamnait aussi violemment la politique menée par Israël vis-à-vis des Palestiniens. Vous avez parlé de cette période, des reproches qu'elle faisait à son père, des tensions qu'il pouvait y avoir sur ce terrain politique?
Oui, bien sûr, parce que ma mère était effectivement une militante d'extrême-gauche qui ne savait évidemment pas à quoi, pendant des années, mon grand-père se livrait. Et donc, elle le voyait comme un homme du système. Et donc, je sais qu'ils ont été en conflit pendant de très nombreuses années. Le sentiment que j'ai, c'est que finalement, c'est cette révélation de l'espionnage et l'incarcération de mon grand-père qui les a rapprochés. Et en réalité... À partir du moment où mon grand-père a été emprisonné, ma mère a consacré sa vie à son père.
Que vaut sur le fond l'argument de votre grand-père quand il dit « j'ai pas eu l'impression de trahir » parce qu'après tout, l'URSS a beaucoup œuvré pour la création de l'État d'Israël. Bon, après ça a changé après la guerre des Six Jours. Mais enfin bon, voilà, moi je j'ai aidé un pays ami finalement. Vous croyez que ça passe, ça?
J'ai du mal à croire à ces explications et j'ai un peu tendance à y voir une espèce de lecture rétrospective.
Ah oui.
Ce que je pense fondamentalement, c'est que mon grand-père a agi parce qu'il avait un sentiment de dette vis-à-vis des Soviétiques et que le seul pays auquel il avait un vrai attachement, c'était l'Union Soviétique parce qu'elle lui avait permis de survivre et de combattre les nazis qui ont assassiné ses parents et son frère. En réalité, c'est ça l'histoire. C'est une affaire de dette et de loyauté, ce qui peut paraître un peu paradoxal pour un espion. Mais au fond, c'est pour moi d'abord une histoire de loyauté.
Quel est le sentiment de la famille vis-à-vis d'Israël, globalement? Ça fait partie de votre vie. Hein,
oui, bien sûr. En tout cas, j'ai un peu de colère, évidemment. Et puis, il n'y a pas que l'histoire de mon grand-père. Cette affaire a fait que j'ai vu des choses qui m'ont marqué à vie. Vous savez, l'essentiel des prisons en Israël, elles sont remplies de prisonniers palestiniens. Et quand nous, nous attendions pour rendre visite à mon grand-père, à côté de nous, il y avait des familles palestiniennes qui attendaient pendant des heures Et moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Parce que, bon, nous, On était certes des parias, mais on était à peu près traités correctement. Eux, c'était pas le cas.
À la mort de Marcus Klingberg, les médias israéliens ont évoqué les torts immenses, ce sera ma dernière question, les torts immenses qu'il aurait causés à Israël en livrant des secrets sur les armes chimiques et biologiques fabriquées à Nes Yona. Qu'en pensez-vous? C'est exact? C'est pas exact? Qu'est-ce qu'on peut...
Personne n'est capable de le dire.
Oui, c'est pour ça que je pose la question.
Personne ne sait exactement ce que mon grand-père a livré. Mmh. Je ne le sais pas non plus. Mais la vraie question, le vrai scandale, c'est pas que mon grand-père ait livré ses secrets. Le vrai scandale, si tant est qu'il l'ait fait, mais le vrai scandale, c'est de les avoir fabriqués. C'est quand même une question redoutable. Qu'est-ce qui fait qu'Israël a refusé de signer les traités sur les armes chimiques et bactériologiques et a produit pendant des dizaines d'années? C'est saloperie, c'est ça le vrai sujet.
Je reviens parce que j'ai encore une minute sur une question que j'ai pas eu le temps de vous poser, que je vous pose maintenant. Pourquoi la Pologne? Pourquoi ce choix de la Pologne?
Ce choix
De Marcus Klingberg, de déconstruire le socialisme en Pologne.
Je saurais pas vous dire, Non,
l'enfant et l'espion, donc, chez Flammarion, vous racontez, Yann Brossa, cette histoire qui est à la fois une histoire personnelle avec votre grand-père et puis qui traverse les soubresauts de l'histoire. Et ça nous montre aussi à quel point nos générations, la mienne, la vôtre, n'ont pas connu ces soubresauts de l'histoire, ces périodes tragiques. Votre grand-père, en revanche, lui, l'a connu, a été ballotté par tout ça. C'est vraiment une grande différence entre les générations. Yann Brossa, merci.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la vie de Marcus Klingberg. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.